On quitte Washington aujourd'hui en direct, bien sûr, de nos studios où nous fonctionnons, bien sûr, à cause du coronavirus. Et c'est de ça qu'on parle cette semaine. On parle de l'impact économique et social du coronavirus. Dans cette émission aujourd'hui, le docteur Konstantin Tchenkou sera avec nous, notre invité. Comme vous l'avez promis, c'est un expert. Et il va nous répondre à beaucoup de questions que vous nous avez posées, dont n'y quittez vraiment pas si vous avez des questions à poser à propos de ce coronavirus. Le docteur Tchenkou sera notre invité au long de toute cette semaine. Et si vous n'avez pas vu vos questions, vos réponses, allais-je dire, dans cette émission, ne vous découragez pas. Vous aurez vos réponses cette semaine, en tout cas, dans RM Show. Merci beaucoup à vous. N'oubliez pas que notre numéro, c'est au plus 1-703-350-37-31. Attachez vos ceintures, on décolle. Sur YouTube, vous cherchez Roger Muntou, vous allez voir nos vidéos et vous allez sur ma page Facebook Roger Muntou, la voix de l'Amérique, ou sur VO Afrique, n'oubliez pas de télécharger l'application RM Show VOA. On décolle aujourd'hui avec la musique country Nobody But You de Blake Shelton et nous revenons dans un instant. J'attends vos commentaires tout de suite. Qu'on est en train de suivre, Blake Shelton, Gwen, Stephanie, Fully Loaded de l'album. émission de VOA Afrique en direct de Washington DC, la grande capitale de USA, et de la bonne musique ce soir. Nobody But You, un duet avec Gwen et Stéphanie. C'était là Blake Shelton. Nous démarrons cette émission aujourd'hui à une émission spéciale parce qu'on continue à parler de ce sujet très important, l'impact social et économique du corona, du nouveau coronavirus. Et bien sûr, nous recevons le docteur Constantin Tchinkou. Docteur, vous êtes médecin dans la région, je pense, du Maryland, c'est ça?
Dans la région de ce qu'on appelle DMV, ça veut dire que Maryland, Virginia, and the District of Columbia, mais je vais en Virginie. Dans la ville de Vienne.
Ah, dans la ville de Vienne. Et évidemment, on a aussi appris, hein, docteur, que vous avez des projets, vous êtes en train de réaliser un projet. Est-ce que vous pouvez un peu nous parler de votre projet que vous êtes en train de réaliser en ce moment?
Oui, nous sommes en train de, n'est-ce pas, essayer de transférer la technologie, surtout médicale, n'est-ce pas, de l'Occident vers l'Afrique. Nous sommes des Africains qui ont immigré en Occident et nous voyons beaucoup de choses, des ressources, des éléments du matériel dont nous pouvons, n'est-ce pas, nous en servir en Afrique. Alors nous essayons de faire le mieux, de ramener chez nous ce que nous avons découvert ici en Occident.
Et ça, c'est très bien, docteur. Alors, docteur, vous avez étudié en Afrique. Vous dites que vous êtes originaire de l'Afrique. Vous avez étudié en Afrique et vous avez continué ici. Où est-ce que vous avez fait vos études de doctorat, de médecin?
J'ai fait mon étude de doctorat à l'université de Yaoundé, à la faculté médecine qui auparavant était appelée l'OCUS, qui était le centre universitaire des sciences de la santé, qui est devenu la faculté de médecine et des sciences biomédicales. Après l'obtention du doctorat en médecine, j'ai migré aux États-Unis où je me suis spécialisé en pédiatrie et dans les services d'urgence.
Merci beaucoup, docteur Constantin Tchinkou, avec nous aujourd'hui dans cette émission RM Show, une émission de VO Afrique en direct de Washington chaque jour entre 20h et 21h temps universel. Docteur, beaucoup de nos auditeurs qui nous écoutent cette semaine, ils attendaient impatiemment qu'on puisse avoir, n'est-ce pas, un expert en la matière, parce que nous sommes en train de parler de l'impact sociaux et économique du coronavirus qui ravage le monde entier en ce moment. D'abord, avant de parler de cet impact, docteur Tchinkou, est-ce que vous pouvez un peu dire à nos auditeurs, c'est quoi exactement ce coronavirus?
C'est un virus. Parce que dans le monde biologique, nous avons des bactéries, nous avons des champignons, nous avons des parasites, comme la malaria, c'est un parasite, ce n'est pas une bactérie, c'est pas un virus, c'est un parasite. Nous avons le streptocoque qui est une bactérie, nous avons le candida qui est un champignon, nous avons des virus. Qu'est-ce qui caractérise le virus? Le virus est caractérisé par ce qu'on appelle un parasite obligatoire. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que le virus ne peut pas vivre hors d'un hôte. Le virus vit seulement dans un hôte dont il dépend. Le virus n'a que ce qu'on appelle le DNA ou le RNA. Ça veut dire que la matière nucléaire. Le reste des substances, il prend chez l'hôte. Ça veut dire que si le virus est exposé sans avoir un autre, un peu de temps, il meurt. En général, entre quelques minutes et peut-être un jour, il va mourir parce qu'il n'a rien mangé.
Wow. Et là, on comprend très bien ça. Ça nous donne un peu une idée pour nous qui ne connaissons rien de la médecine, c'est que c'est le virus et c'est que c'est le coronavirus. Alors aujourd'hui, beaucoup de questions, docteur Constantin, autour de ce virus-là. Qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui le monde soit en panique avec ce virus-là? Comment cela a commencé? Comment cela aujourd'hui s'est répandu partout dans le monde?
Le monde panique parce que nous n'avons pas encore des solutions. Qu'est-ce qu'on appelle une solution pour une maladie? C'est soit un médicament, dans ce cas un antiviral, soit une vaccination qui, à titre préventif ou à titre curatif, peut empêcher la maladie, soit d'entrer chez un individu, soit de progresser lorsqu'il est déjà dans cet individu. Alors, on panique parce que nous n'avons pas encore de solution. Il n'y a ni médicament, ni vaccin. Alors, maintenant, nous sommes dans des mesures préventives et conservatoires. Et en général, il y a deux manières de prévention. Il y a la prévention primaire et la prévention secondaire. La prévention primaire, c'est ce que vous faites pour empêcher d'être malade.
Merci beaucoup, docteur Chinku. Je rappelle que vous êtes docteur ici en Virginie, à DMV, DC, Virginia, Maryland. Nous allons prendre un petit break, passer à l'anglais. L'anglais, c'est très important. Chaque jour, on va être à votre heure, temps universel. L'anglais, c'est tout de suite. Voilà, elle est déjà prête. Michel Joseph, à qui on dit hello, Michel.
Hello, Roger. Bonjour, Roger. Hello, everyone. Bonjour, tout le monde. The word of the day, le mot du jour, why? W-H-Y. W-H-Y. Pourquoi? Pour quelle raison? Why did he steal from the store? Pourquoi a-t-il volé dans le magasin? The reason why you need regular training is because technology changes fast. La raison pour laquelle vous avez besoin de formation régulière est que la technologie change rapidement. They could not answer as to the why of the procedures. Ils n'ont pas pu expliquer les raisons de ces procédures. Donc dans ces cas-là, why, ça veut dire les raisons. Why did you go there in the night? Pourquoi vous y êtes rendu dans la nuit? Why are you angry? Pourquoi êtes-vous en colère? Why is she upset? Pourquoi est-elle énervée? Why are they here? Pourquoi sont-ils ici? Why did you tell him? Pourquoi lui as-tu dit? Et why en tant que exclamation au début de la phrase? Why? That's not possible. Ou pour appuyer quelque chose? Why, yes, of course. Vous avez compris? Back to you, Roger.
Back to us. Merci beaucoup, Michel Joseph. Vous écoutez Michel Joseph chaque jour entre 20h et 21h, temps universel, dans RM Show pour apprendre l'anglais. La musique continue, bien sûr, country music avec Dixie Chicks. Et la chanson, c'est Gaslighter.
Gaslighter, denier, doing anything to get your father.
Une émission de Voix Afrique en direct de Washington, D.C. Notre invité spécial aujourd'hui, Dr. Konstantin Chinku, qui répond à vos questions à propos du nouveau coronavirus. Nous écoutons la chanson Gaslighter, Dixie Chicks. Country. Et nous, nous continuons avec notre discussion, notre débat. Le docteur Chinku répond à vos questions. Docteur, nous continuons notre discussion et vous répondez aux questions des auditeurs. Et donc, vous nous dites que le monde n'était pas préparé à tout ce qu'on voit aujourd'hui.
Le monde n'est pas préparé, le monde n'était pas préparé, le monde n'est même pas préparé aujourd'hui. Et même quand bien nous avons des solutions, elles se butent aux réalités. Voilà le problème qui s'est engendré cette semaine aux États-Unis. Les États-Unis ont pris ce qu'on appelle un task force, ça veut dire qu'ils ont convoqué des scientifiques, des médecins et des chercheurs de pouvoir trouver une manière de gérer ce virus. Et depuis lundi, tous ces chercheurs et scientifiques se sont accordés en connaissant l'épidémiologie de la vie du virus. L'épidémiologie veut dire quoi? Ça veut dire que la vie du virus, comment elle se propage, comment elle se comporte. Et nous savons que la période d'incubation est de 2 semaines, entre 2 jours et 14 jours. Alors, l'on dit, les scientifiques disent que si ce gars qui est infecté est gardé dans sa chambre pendant 14 jours, il ne va infecter personne. Alors, les scientifiques aux États-Unis ont fait une recommandation aux politiciens, aux hommes économiques, que nous avons besoin d'entre 14 jours et 20 jours pour empêcher la prolifération de ce virus. Alors, ils ont demandé que tout soit en quarantaine, qu'on bloque les villes, qu'on ne suit pas entre les villes, qu'on n'aille pas au travail, qu'on n'aille pas à l'école, qu'on reste chez soi, qu'on ne sent que lorsqu'il est impossible de rester à la maison. Et on suit ce cheminement. En 28 jours, ce virus sera contenu et peut-être même disparaître. Mais est-ce que c'est plus aux hommes économiques et aux investisseurs? Pourquoi? Parce que rien ne bouge. Toutes les boutiques sont fermées, toutes les entreprises sont fermées, l'argent n'entre plus. Je prends l'exemple de quelqu'un qui a un hôtel de 500 chambres, aucune chambre n'est occupée. Mais la lumière tourne, l'électricité tourne, le téléphone est là, il y a des charges. Alors les États-Unis se sont confrontés depuis hier à faire un choix entre la santé et la l'habilité ou la capacité de la population à se nourrir, à se vêtir et d'avoir un logement.
Et donc cela nous amène directement à, docteur, à notre question de la semaine. Et donc c'est l'impact économique maintenant aussi, qui est aussi un grand problème en ce moment. Et donc vous, en tant que docteur, maintenant vous êtes confronté avec ces deux problèmes-là, un problème sanitaire et un problème économique.
L'impact économique de ce virus elle est grave, elle est sévère, elle est profonde. Lorsque ce virus a commencé, en Chine et en Italie, elle frappait des dégâts, surtout de plus de 80 ans. Et depuis que ce virus est arrivé en France, puis aux États-Unis, et l'Afrique, 40 à 45% des gens atteints sont moins de 50 ans. Ça veut dire que ce sont des gens qui sont dans la vie active. Ça veut dire que si cette population est frappée non seulement, on nous enlève les gens qui étaient en train de produire dans la société, mais on a arrêté même cette production, et il n'y a plus de mouvement d'argent, il n'y a plus de productivité.
Even though I'm leaving Luke Combs Country Music, I am afraid.
Ça c'est
ce qui pousse le cœur à certains Africains qui nous posent la question tout au long de cette semaine pour me dire, Roger, ça ce n'est pas une maladie des Africains, ça ne tue pas les Africains, ça ne tue que les Blancs, avec une maladie des Blancs. Et comment on peut répondre à la question de ces frères et sœurs qui nous posent cette question? Notre invité ce soir, parce que nous parlons de l'impact économique et social du coronavirus, le docteur Constantin Chinkou, avec nous, qui continue bien sûr à répondre à vos questions. Docteur, vous êtes encore là avec nous.
Ce virus est capable de résister dans l'air ambiant pendant 8 heures de temps. Lorsqu'il tombe sur certaines surfaces, sa résistance peut être un peu plus prolongée. Si vous êtes exposé à ces virus, il y a des fortes risques que vous serez infecté. Maintenant, il faut savoir qu'il y a une différence entre infecté et être malade. À peu près 75% des gens qui sont exposés à ces virus ne présenteront même pas des symptômes ou des signes. Ils ne savent même pas qu'ils sont malades. Mais 22% des gens qui vous deviendront malades, et sur 25%, à peu près 5% seront gravement malades et peut-être intubés, et à peu près 0,8% vont mourir. Il n'y a pas de distinction de race, de classe sociale, de profession. Tout le monde est exposé. Et je disais tantôt que l'Afrique a l'avantage de pouvoir regarder à trois scénarios et à trois modèles. Lorsque ce virus arrive en Afrique, elle a frappé la Chine. Et les Chinois sont en train de presque exterminer ça. Elle a frappé l'Europe, surtout l'Italie, qui ne parvient pas à bien gérer. Elle est maintenant aux États-Unis, qui, ayant trouvé une solution de contenir ce virus, se demande si le risque économique que ça implique vaut la peine de prendre ces mesures conservatoires. Jean-Béry n'a pas encore décidé. Les conservateurs sont d'un côté, ils aiment le business, ils veulent tout ouvrir. Et les démocrates sont de l'autre côté, ils disent que nous sommes en train de parler des vies humaines. Attendez d'abord qu'on se trouve les vies et on parlera de l'économie après. Voilà le débat qui est en train de se poursuivre cette semaine. Et lorsque nous allons voir le budget qui a été voté ce soir même, on va voir de quel côté le choix est fait.
Restez avec nous, docteur. Nous revenons dans un instant. Vous êtes en train d'écouter RM Show, une émission de VOA Afrique. Place à présent à notre segment Actualité. Les États-Unis sont en train de devenir un point chaud de la pandémie de COVID-19. Selon l'université Johns Hopkins, le pays enregistre plus de 55 000 cas et 800 morts. Ce qui a poussé le gouverneur Andrew Cuomo de New York à demander plus d'aide de la part du gouvernement fédéral. Retour sur ce drame au Tchad. Boko Haram a tué près de 100 militaires tchadiens dans une attaque à Boma dans la province du Lac, ce qui a affaibli l'armée tchadienne dans cette région frontalière où le groupe djihadiste nigérien multiplie les assauts meurtriers ces derniers mois. Le président Idriss Déby Itno s'est rendu en personne sur les lieux de l'attaque hier pour s'incliner sur le corps de 92 soldats morts. L'arrivée du nouveau coronavirus au Kenya a changé la façon de conduire les services religieux dans les divers lieux de culte de la capitale. Les catholiques de Nairobi s'abstiennent d'utiliser de l'eau bénite. Les musulmans ont cessé les nettoyages rituels et les temples hindous se sont tournés vers la diffusion en direct de leurs services. La plupart des pays africains ont suspendu les vols, fermé des écoles et interdit les grands rassemblements pour contenir le Covid-19. Et ils examinent de près les politiques de confinement imposées en Chine et maintenant en Europe. Mais si certains pays d'Afrique de l'Ouest prennent des mesures préventives strictes, d'autres ignorent le danger que représente la pandémie et le coronavirus.
C'est parce qu'on s'était dit.
Actualité culturelle, la star de la musique congolaise Fally Ipupa a joint sa voix pour sensibiliser le public à respecter les mesures préventives contre le Covid-19. Il exhorte le public à ne pas échanger de baisers et de poignées de main et à se laver les mains. C'est tout pour l'actualité dans RMG. d'après l'organisation, docteur, l'Organisation mondiale de la santé, il y a déjà 375,498 cas confirmés, 16,362 confirmés morts dans le monde. Est-ce que vous pensez, docteur Tchenkou, que ce nombre va continuer à croître?
Non, ce nombre d'abord qu'on vous donne ne représente que ceux qui ont présenté des symptômes et qui ont été testés. Ça veut dire qu'au maximum, ce nombre ne représente que 20% de l'échantillonnage. 80% des échantillonnages ont été délaissés parce qu'ils n'ont pas soit présenté des symptômes, soit ils n'ont pas été malades.
Et donc vous pensez, docteur, qu'il y a plusieurs cas qu'on ne connaît pas encore?
Non, moi je dis que ce nombre doit être multiplié par 10 à chaque fois.
Mm-hmm.
Parce qu'il n'y a que 2 sur 10 qui soient tombés malades, qui soient à l'hôpital. 8 sur 10 ne savent même pas qu'ils sont malades. Alors, ce nombre qu'on veut donc, c'est ce qu'on appelle en statistique des statistiques hospitalières. Mais ce ne sont pas des statistiques universelles. Sur le point, je dis que ce nombre sont très peu par rapport à ceux qui ont été déjà en contact avec ces virus. Les tests que nous utilisons de nos jours ne sont pas des tests qu'on appelle rapides. Les tests rapides sont des tests qui te donnent les résultats dans quelques minutes ou bien en une heure. Ces tests durent en moyenne 3 à 5 jours. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que tout ce qu'on nous donne comme information a un retard d'entre une ou deux semaines. Je disais la même chose pour l'Afrique. Ce nombre qu'on vous donne en Afrique encore, c'est tolérable. Et si on ne met pas des mesures d'urgence dans les 10 jours qui arrivent, nous serons dans des problèmes sérieux. On doit mettre les grandes villes en quarantaine. On doit fermer, on doit boucler, on doit empêcher le mouvement. Donc, d'une ville à l'autre, on doit les laisser à la maison, ils doivent aller au travail, ils doivent aller à l'école, ils doivent rester chez eux. Sauf le personnel essentiel, médical, police, militaire et autres. Sinon, tu sacrifices chez lui. Si c'était même possible, je voulais proposer au gouvernement que les ministres travaillent à partir de leur maison. Donner l'exemple. L'exemple doit venir du haut. Parce que jusque-là, les gens courent partout et ils continuent à vaquer à leur occupation comme s'il n'y avait rien. Pourtant, il y a une menace sérieuse qui arrive dans les 14 jours.
I can't wait to show you where I grew up. Walk you around the foothills of my town. Probably feel like you've been there before. After hearing all the stories I've been telling you.
Cette belle chanson qu'on va prendre, un petit break, un petit repos, c'est Ingrid Andress, More Heart Than Mine, un morceau très cool que je vais dire à nos amis qui sont en train de nous capter ce soir en Mauritanie et nos amis qui nous captent aussi à N'Djamena. La bonne musique, country music, continue dans un instant, More Heart Than Mine, une très belle chanson, elle a une très belle voix. N'oubliez pas notre invité de ce soir, Dr Constantine, restez avec nous, on va prendre un petit break, nous revenons dans un instant. J'ai dit comme d'hab, Jah bless. Peace, Africa!
Et
Rennes,
c'est
à classe. Et Rennes, c'est à dire. Et Rennes, c'est à dire.
Kabila et le monde de Kimisa. Pour la
Yukon. Vous avez branché sur la voix de la mer, c'est un pays d'Haïti. Pas raté, voltage chaque après-midi avec Roger Monti, RM Show. Ton avion est bon pilote et qui toujours atterrit en sûreté. Avec Bonnique et ses sandales. Roger Monti, RM Show. Sur la voix de la mer. À part le site, merci à toi. En tout cas, RM Show, à la liste, à vous, ça va, à voir, à notre baptisé, à voir.
Bonjour, je suis la parade de RM Show, Mané.
Que vous êtes en train de nous capter comme vous le faites chaque jour entre 20h à 21h, temps universel. Merci à vous de rester fidèles à cette émission et bien sûr votre émission où vous êtes informés, où vous vous régalez, où vous partagez bien sûr vos sujets sociaux, culturels, économiques, politiques, qu'on sache. On débat tout dans RM Show, c'est votre émission, c'est notre salon, c'est notre cuisine. On se met, on débat tout ce qu'on peut débattre, on écoute de la bonne musique, toujours dans l'ambiance. Et cette semaine, on parle de l'impact économique et sociale du coronavirus, du nouveau coronavirus. Notre invité aujourd'hui, c'est le docteur Constantine Tchenkou, docteur dans la région de DMV, DC, Virginia, Maryland, qui répond à vos questions, bien sûr, répondre aussi à nos questions en direct. On écoute aussi de la bonne musique country, la musique traditionnelle américaine. On redécolle avec God ou Good as You, Kenny Brown.
See the way you're taking care of your mama, the way you're taking care of me, the way you line up any room, girl, you're what this world should be. Tomorrow, tonight, the rest of my life, I wanna be the man you want me to be. So starting right now, girl, tell me everything you need. I just wanna wake up every day here in this bed. Never leave, I love you, left unsaid. It might take a 100 lifetimes to do. But baby, I just wanna be good as you. Girl, you're more than just a surface. Yeah, you got the heart of gold. So when it comes to loving you, baby, now it'll never get old. Tomorrow, tonight, the rest of my life, I wanna be the man you want me to be. So start right now, girl, tell me everything you need. I just wanna wake up every day here in this bed.
Kane Brown fait partie de ce petit groupe de chanteurs afro-américains de la musique country. Ken Brown est jeune. Il a commencé à faire de la musique country jeune aussi au Texas et à Nashville. Ken Brown, Good as You. Nous allons continuer avec notre discussion avec le docteur Constantine Tchenkou qui répond à vos questions. Toutes les questions que vous avez posées, il sera notre invité au long de toute cette semaine. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez surtout pas à envoyer-les sur WhatsApp au plus 1-703-350-37-31. Je répète lentement, plus 1-703-350-37-31.
Africa.
Et docteur, en parlant de l'Afrique, on a appris que plusieurs pays, en tout cas à part peut-être la Mauritanie ou le Mali, ont été affectés par ce virus. Est-ce qu'on sait pourquoi dans d'autres pays, il n'y a pas encore des cas recensés?
Non, tout dépend de l'immigration. La cible primaire, ça veut dire que où elle a commencé le foyer de ce virus, c'était la Chine. Puis les Chinois sont allés pour leur fête de fin d'année. Vers décembre, janvier. Puis, ils sont revenus en Europe. Le premier foyer de contamination après la Chine, c'était l'Europe, l'Italie, la France. Et après, les immigrants, surtout venant de France, alors en Afrique. Et quand vous regardez en Afrique, c'est surtout dans les zones aéroportières où les avions atterrissent que ce virus se trouve, se concentre en ce moment. Ça veut dire que tout est importé. Maintenant, on dit encore que tout est importé. Mais si on ne contient pas ce qui est importé, elle devient locale. Donc, moi, je vous parlais des deux prochaines semaines, 10 jours à peu près. Si on ne parvient pas à isoler ce cas des voyageurs, ces petits nids qui se forment autour des voyageurs, ils vont commencer à infecter la population locale. Je vous prends l'exemple, si un gars infecté se retrouve dans un grand marché en Afrique, vous connaissez les marchés en Afrique, ils ne sont pas très bien conçus le plus souvent, c'est en fait que les gens vendent des choses. Et souvent, ils sont entassés en centaines. Imaginez-vous ce virus dans un marché africain.
Et dans beaucoup de pays en Afrique, docteur Tchenkou, on a vu que des gouvernements, les chefs d'État ont pris des décisions pour confiner bien sûr la population. Vous avez parlé de l'immigration, empêcher cette immigration-là, fermer même les frontières, même dans le pays pour éviter cela. Et donc vous dites et vous pensez que c'est une bonne solution?
Oui, la solution, je pense que nous avons raté. Et j'avais fait cette recommandation-là dès qu'elle a commencé. Nous avons d'abord raté à résoudre ce problème en décembre. Et l'OMS aussi, je pense, a raté sur ce point. On aurait isolé la Chine, ce problème aurait été un problème chinois. Et ils ont refusé que ce n'est pas humain, il faut laisser les transports de la Chine et tout ça. Et maintenant, l'on ne sait même plus où ce virus ne se trouve plus. Elle était chinoise avant de devenir européenne, avant de devenir africaine. On aurait dû arrêter ça en Chine.
Donc on a raté l'occasion.
On a raté l'occasion avec la Chine. Et je dis aux pays africains qui sont encore venus nous continuer pendant 10 jours. Ils ont une fenêtre de 10 jours d'empêcher sur la propagation de ce virus. Et on doit isoler ces villes, ces grandes villes, empêcher que ces gens passent des grandes villes vers les villages. Les grandes villes où les avions atterrissent là. On doit essayer de faire un cordon sanitaire autour de cette ville. Parce que si les gens commencent à quitter cette ville pour aller ailleurs, la catastrophe. Maintenant, il faut identifier les gens qui ont voyagé, essayer d'identifier ceux qui sont en contact direct avec des voyageurs. Tout ça, c'est ce que le ministère de la Santé, avec l'aide des sécurités, doit faire. Mais nous avons une petite fenêtre, à peu près 10 jours. Quand cette fenêtre est passée, nous sommes dans des problèmes. Parce que nous n'avons pas les ressources, nous n'avons pas les moyens, nous n'avons pas l'éducation de la population qu'il faut. Nous n'avons rien pour combattre un tel virus.
Docteur, dans un continent, en Afrique par exemple, où il y a des pays, où il y a des populations qui vivent du jour au jour, qui doivent sortir pour aller chercher de quoi vivre, de se débrouiller par-ci par-là, vous avez parlé de grands marchés, comment résoudre un problème pareil? Il y a des gens qui m'ont appelé pour me dire, mais Roger, c'est bien bon qu'on puisse rester chez nous, mais comment on va vivre? Chez nous, c'est beaucoup plus la famine qui va nous tuer que cette maladie. Qu'est-ce que vous répondez à ces gens?
Je lui réponds que je viens de faire une proposition à l'État camerounais. C'est en ce moment dont le rôle républicain de l'État rentre en jeu. Protéger ses citoyens. L'État a besoin de puiser dans des ressources pour protéger les citoyens pendant un temps très court. L'État a besoin d'agir pendant 14 à 28 jours. Donner à manger aux citoyens, les donner de l'eau potable et s'assurer qu'ils dorment quelque part. Le travail, on doit arrêter. Les situations, on arrête. On met les militaires pour servir la population. L'État doit prendre ses responsabilités et prendre tout en main. On peut dire que c'est même un état d'urgence. Tous les États devaient déclarer d'abord l'état d'urgence. Ce virus est plus qu'une guerre. Elle va tuer plus que toutes les guerres. Si on s'amuse, Sur le quoi, quand tu vous attendez les présidents occidentaux parler, disent la guerre contre le coronavirus. C'est une guerre. Et ce n'est pas la population qui se lève à faire la guerre, c'est l'État qui organise ses troupes pour affronter l'ennemi. L'ennemi ici est un virus.
Docteur, on a parlé de l'impact économique et là je venais de parler des familles qui s'inquiètent, comment ils vont trouver de quoi manger, comment ils vont se débrouiller, les écoles qui sont fermées, les bars qui sont fermés, les magasins qui sont fermés et cela cause aussi un problème social. L'impact social, comment vous mesurez cet impact social? Il y a le stress qui ne fait qu'augmenter dans certaines familles.
Ma vie ne sera plus comme avant. Quand vous rencontrez quelqu'un dans la rue ou bien dans une boutique, la première chose c'est que vous n'allez pas vous toucher, vous ne devez pas vous toucher, vous vous saluez sans vous toucher. Je connais bien que la personne m'embrasser et cajoler, tout ça, ça doit s'arrêter. Vous vous saluez à distance. De deux, il faut se laver les mains très souvent. Je ne veux pas dire que j'utilise ce qu'on appelle des trucs sanitaires, parce que c'est là que dans le conscient, on ne veut pas augmenter le problème économique, mais laver les mains fréquemment. Quand vous allez dans les endroits, il faut être loin des gens. Il y a un cordon qu'il faut être, on dit à peu près un mètre et demi. Évitez d'aller dans des endroits où il y a des réunions plus de 10 personnes.
Donc des rassemblements non essentiels, quoi.
Oui, des rassemblements non essentiels. Il faut éviter. Tout ce que je parle là, c'est ce qu'on appelle la prévention primaire. La base de cette pandémie, comme on n'a pas de vaccin, on n'a pas de médicaments qui a été déjà vérifié et validé, le seul truc, c'est la prévention primaire d'abord. Alors, je dis bien, l'impact économique sera dévastatrice. L'économie mondiale va tomber d'une manière...
Est-ce que le monde pourra se rattraper après?
Il y aura une crise économique. Mais ce qui est important, c'est l'homme. C'est l'homme qui est au centre de l'univers. On doit d'abord sauver l'homme. Et puis on va sauver l'économie. Puisque c'est l'homme qui a créé cette économie, et qu'on l'a recréée. Mais la ressource la plus précieuse que nous avons sur Terre, c'est l'être humain. Il faut le sauver d'abord. Et cet être humain doit être partenaire dans cette manœuvre qui veut le sauver. L'être humain doit savoir qu'il a une responsabilité. La responsabilité, c'est de rester chez lui, d'essayer de ne pas sortir, sauf en cas majeur où tu dois obligatoirement sortir, sinon. Et quand vous voulez aller vous adapter, il va vous dire, vous-même pour une semaine, je sais qu'il y a pas les frigos, mais ne sortez pas tous les jours. Parce que quand vous sortez, vous multipliez les chances de rencontre de ces choses. Lorsque nous avons traversé la période d'incubation, nous sommes sauvés. Ça veut dire que nous avons 28 jours comme période de combat, si on peut appeler ça. La guerre, c'est une guerre de 28 jours. En 28 jours, on fait une stratégie de 28 jours et on l'applique. Mais ces virus sont en train d'entrer dans l'Afrique. Ça fait déjà 2 à 3 semaines qu'elles sont en train de pénétrer. Nous avons une petite fenêtre. Après ça, on ne pourra plus rien. Ça serait la prévention secondaire. Ça ne serait plus primaire, parce que ça serait déjà partout.
Et docteur, vous parlez d'une guerre, mais c'est une guerre mondiale. C'est une guerre qui affecte le monde entier. Comment, médicalement, cela peut être réglé? Vous parlez de 14 jours à 28 jours. Comment cela peut être réglé? En même temps aux États-Unis, en même temps au Cameroun, en même temps au Sénégal, en même temps en Italie.
L'Organisation mondiale de la santé, quand vous voyez tous ces pays africains depuis la semaine passée, dit que plus d'avions, plus d'atterrissage, ça c'est le travail de l'Organisation mondiale de la santé. Elle donne les recommandations au gouvernement. Elle donne des principes. Best practices, c'est-à-dire les meilleures pratiques médicales. L'Organisation mondiale de la santé est en train de coordonner ses efforts. Mais elle a besoin du concours de chaque État. Et comme je propose aux États africains, vous allez souffrir à faire rester les gens chez eux pendant 14 jours à 28 jours. Mais vous en sortirez 5 heures. Si vous ne faites pas cela, s'il n'y a pas la discipline individuelle et collective, nous allons prolonger ça pendant à peu près 18 mois. Voilà les projections de la maladie. Nous pouvons faire ça ou nous pouvons prolonger et créer plus de problèmes. Je pense que la meilleure manière, c'est que chaque pays se sacrifie, que chaque individu se rend un peu plus responsable, essaye de se confiner pendant ces 14 jours, à 28 jours.
Docteur Constantine Tchenkou, il y a combien de cas au Cameroun, par exemple?
Je crois qu'ils sont à une cinquantaine. Mais comme je vous dis, chaque fois que vous entendez ce nombre, il faut multiplier ça au moins 70. Mmh. Parce qu'on parle des cas testés. Et d'abord, d'une part, il n'y a pas beaucoup de tests disponibles en ce moment. Ça veut dire qu'il faut avoir présenté d'abord certains symptômes, comme la fièvre, comme la toux, comme la congestion, et surtout des problèmes d'insuffisance respiratoire pour qu'on commence à penser. Le deuxième groupe de gens qu'on a voulu tester et qu'on n'a même pas testé, c'est les gens qui sont descendus de l'avion en venant de l'Europe récemment. On a mis en quarantaine et on a testé quelques mois, on n'a pas pu tester pour le moment. Mm-hmm. Puisque nous avons déjà une population cible, je crois qu'on peut faire un cordon sanitaire autour de cette population d'abord. Et puis autour de la ville où ils sont entrés. On n'a pas besoin de bloquer tout le pays parce qu'un gars qui est, je ne sais pas, dans une ville où, qui est peu accessible par la route, peu accessible par le train et par l'avion, et on n'a pas besoin d'aller là-bas. Mais des villes où l'avion atterrit, qui va d'un pays à l'autre, des villes pareilles doivent être.
Docteur, il y a les auditeurs de la Mauritanie qui m'ont écrit pour me demander, mais Roger, vous là-bas aux États-Unis, vous n'avez pas encore trouvé des vaccins, vous n'avez pas encore trouvé des cures pour, n'est-ce pas, finir avec cette maladie ou ce virus. Mais pourtant, il y a des pays africains, d'après eux, il y a par exemple au Sénégal, il y a un monsieur qui était guéri, il y a dans un autre pays, ils ont dit un monsieur était guéri. Alors, ils ne comprennent pas comment ça se passe pour trouver le médicament qui va éradiquer cette maladie-là. Comment ça se passe? Est-ce que n'importe qui peut soigner? Pourquoi pas les Américains ou les chercheurs américains ou les médecins américains vont s'informer auprès des Africains pour savoir c'est quoi cette potion magique pour guérir les malades? Comment ça se passe? Est-ce qu'on a déjà trouvé? Est-ce qu'on est sur une piste de vaccins, de médicaments pour éradiquer cette maladie? Et on a parlé de la chloroquine, je ne sais pas, docteur, qu'est-ce que vous nous dites à ce sujet?
Bon, commençons par le commencement. Sur 100 infectés, 80 ne tomberont pas malades. Ils vont sauter guéris seuls. Il n'y a que 20% qui auront besoin d'aide. À peu près 10% auront besoin d'un peu d'aide. À peu près 5% auront besoin d'être en soins intensifs. Et à peu près 0,5%, 1% auront mourir. Ça veut dire que 80% des personnes n'ont besoin de rien. Et je pense, sans risque de me tromper, toutes ces potions qu'on donne, ils se sont guéris en dépit de ces potions. Parce que 80% déjà, vous savez, si 10 personnes qui vont guérir instantanément, n'ont pas besoin de quoi que ce soit. Ça, c'est pour la guérison instantanée. Maintenant, au point de vue médicaments, il y a au moins 2 à 3 antiviraux qui sont déjà en travail. Ils ont déjà fait la phase primaire de recherche, ils sont à la phase secondaire. Et il y a au moins 2 vaccins américains et je crois 1 vaccin européen qui sont déjà, Sanofi est en train de travailler sur ça. Mais avant qu'on teste un virus sur un être humain qui sera dans les 3 prochains mois, il y a beaucoup de restrictions. Le FDA ici, le Food and Drug Administration aux États-Unis, a des critères très, très dur pour passer avant de pouvoir aller à la phase où on teste un vaccin sur une personne. Ça prend en général entre 3 et 6 mois. Cette phase, deuxième phase, et puis la troisième phase, qui est à grande échelle, encore 3 à 6 mois. En général, quand on accélère la production d'un vaccin ou un médicament, ça prend à peu près 1 an. Bon, si dans certains pays, il y a du temps où on n'est pas très rigoureux, de sortir un médicament dans 2-3 mois. Bon, c'est différent. Mais est-ce qu'elle sera approuvée par le FDA? Non, je ne pense pas qu'il y a une manière rigoureuse pour approuver. Parce que, c'est même pas le fait qu'un médicament peut te guérir d'une maladie et te donner une autre. Un médicament peut te guérir d'une maladie et t'en donne 3 ou 5 autres problèmes qui sont souvent plus sévères. Ceci dit, on ne veut pas seulement que ça guérisse, mais on ne veut pas que ça nuise. Après avoir guéri, on ne veut pas des effets secondaires néfastes. C'est pourquoi même les médicaments qu'on a mis sur le marché, de temps en temps, on les retire. Parce qu'on a vu que les effets secondaires sont vraiment difficiles à manager. Mm-hmm. Mais les chercheurs ont déjà trouvé des antiviraux, au moins 2, et les vaccins, il y en a au moins 3, qui sont déjà en train d'être étudiés, mais ça prend du temps. Ça ne peut pas être avant 9 mois.
Si vous êtes en train d'écouter RM Show, vous avez vos questions à poser. N'hésitez surtout pas, posez-nous des questions et nous allons les poser à notre expert médecin, Dr Konstantin Chenku, ici à Washington, D.C. Docteur, je sais qu'on va vraiment vous déranger au long de toute cette semaine avec ce problème, peut-être même aussi la semaine prochaine. Je voulais juste vous dire merci beaucoup pour le temps que vous nous avez accordé. En tout cas, merci docteur.
Pas seulement pour vous remercier, nous sommes au service de l'humanité et ce sont des temps difficiles, nous devons tout faire pour sauver l'humanité.
Et je rappelle que vous êtes docteur dans la région de DMV, Virginia, D.C., Maryland. Merci docteur. Chanson de Carly Pierce et Lee Bryce, un couple qui fait de la bonne musique. Vous êtes en train de déguster de la bonne musique country, la musique traditionnelle américaine, ici dans RM Show, comme vous le faites chaque mercredi. Notre invité de ce soir, c'était le docteur Konstantin Chenku, qui a répondu à vos questions. N'hésitez surtout pas de nous envoyer vos messages et vos questions pour cette semaine. Il pourra répondre à ces questions. Et voilà, il est maintenant temps de passer à la blague du jour, parce qu'on doit quand même se relaxer, rigoler un peu. La blague du jour, c'est tout de suite. Voilà la blague du jour. On commence avec Lionel Gaïma. Alors, la blague, Lionel.
All right. Nous sommes en 2021. Et puis, un gars se présente pour un job après une longue période sans boulot. Et le directeur de ressources humaines, pendant l'interview, lui dit « Que faisiez-vous en 2020 ? Parce que je vois qu'il y a un trou dans votre CV. » Et le gars répond « Naturellement, comme tout le monde, je me lavais les mains. »
Ah oui. Merci Lionel. Après Lionel Gaïba, on passe maintenant à Jean-Louis Mafema. C'est quoi la blague du jour, Jean-Louis?
Un monsieur est en visite à Paris. Il prend un taxi Mercedes pour aller voir la Tour Eiffel. Alors il demande au chauffeur, mais au fait, c'est quoi le petit rond sur le capot de la voiture? Et le chauffeur vous le répond pour se moquer de lui. Ben non, mais c'est un viseur, c'est pour écraser les passants, quoi. Et le monsieur tout excité dit, écoutez, je vous donne 1 000 francs et comme ça on peut écraser quelqu'un. Ouais, le chauffeur alors lui, il commence à accélérer et en dernière minute, il évite le passant qu'il allait écraser. Et puis il entend paf. Et du côté droit, et tout est couvert de sang. Alors le monsieur qui le regarde, il dit, hé, hey, tu l'avais raté, mais moi, tu vois, j'ai ouvert la portière, quoi, comme ça au moins on l'a pas raté.
Merci beaucoup à Jean-Louis, merci aussi à Lionel Runanira Gaïba. On continue avec la musique et on revient pour vous dire au revoir.
Beautiful girls tell me goodbye. Trucks break down, dogs run off, politicians lie, been fired by the law. They take one hand to count the things I can count on. No, there ain't much man that ain't ever let me down.
Broke My Heart, c'était la chanson des Cambres, un morceau très très cool. Merci à l'artiste, merci à vous qui êtes restés à l'écouter cette émission. On se retrouve bien sûr demain avec de la bonne musique seulement ici dans RM Show, une émission de VO Afrique. Merci encore une fois au docteur Constantine Tchekou et merci à vous qui êtes restés à l'écoute de cette émission. On continue à parler de l'impact socio-économique du coronavirus. God bless, peace Africa.
C'était RM Show, VOA Afrique.